La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'incroyable histoire de Justus Rosenberg, témoin et acteur du sauvetage des plus grands artistes européens menacés par le nazisme. Écoutez le récit d'un audacieux jeune homme de 96 ans.
Moi, je m'appelle Justus, ou Justice, comme on le dit ici souvent, Rosenberg. Je suis citoyen américain, mais je ne suis pas né aux États-Unis. Parce que je suis né de ce qu'on a appelé dans le temps la ville libre de Danzig. Et en 1933, Hitler, ou le parti nazi, qui existait comme en Allemagne, aussi à Danzig, a pris le pouvoir. Et ils commençaient à faire les mêmes lois anti-juifs qu'ils avaient faites en Allemagne. Et à ce moment-là, j'avais 16 ans. Et mes parents m'ont envoyé en France pour continuer mes études en France en 1937.
Les yeux dans les yeux, Justus Rosenberg répond aux questions de notre correspondante aux États-Unis, Anne-Marie Capomaccio. Pendant plus de 2 heures d'entretien, celui qui a pris tous les risques pendant la Seconde Guerre mondiale et qui continue d'enseigner avec passion au prestigieux Bard College de New York raconte avec humour et modestie ce qu'aucun de ses étudiants ne soupçonne. Justus Rosenberg est entré dans l'organisation clandestine Varianfrei à Marseille, dans le sud de la France, en 1940. Il a donc participé au sauvetage d'environ 2000 artistes avec leurs familles. Marc Chagall, Heinrich Mann, Alma Mahler-Werfel, André Breton. Autant de personnalités que vous allez retrouver en écoutant l'incroyable histoire de Justus Rosenberg en exclusivité dans la Marche du Monde sur RFI. Mais commençons par le commencement. Nous sommes en 1937. Justus a tout juste 16 ans. Ses parents l'envoient en France pour le protéger et sur la route entre Danzig et Paris, il s'arrête à Berlin.
J'étais blond, avec des yeux bleus. On n'en dirait pas aujourd'hui, mais en fait, comme j'avais l'air très arien, j'ai essayé d'aller à deux choses que j'ai toujours voulu voir. D'abord, j'avais beaucoup aimé, lorsque j'étais plus jeune, les opérettes de Léard, France Léard. Alors, quoique au théâtre, on disait « juif pas admis », comme j'avais l'air très arien, j'y suis allé quand même. C'était magnifique, c'était très beau, comme musique, n'est-ce pas? Et j'ai pensé à autre chose. Et d'ailleurs, je me souviens exactement, c'était, je crois, au mois de mai 1937. Et cette semaine-là, par hasard, Hitler donnait un discours à la grande salle des sports à Berlin. Alors je dis, ben, pourquoi pas? Et je suis allé aussi à ce meeting. Il y avait plus de 10 000 personnes. Et, vous savez, à cet âge-là, on n'a pas peur, au fond. Pour moi, c'était très intéressant aussi de voir cette ferveur des gens qui écoutaient à leur Führer parler, n'est-ce pas?
Wir brauchten keine Sparkasse schließen, wir brauchten keine Bank schließen, wir hatten keine Schwierigkeiten in unserem geschäftlichen Leben. Ich muss es sagen, ich bin stolz auf ein deutsches Volk.
C'était pas Hitler qui m'a tellement impressionné. Évidemment, vous savez, au bout de 10 minutes, c'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? Il parle de cette façon. Ce qui était bien plus intéressant pour moi, c'était les membres qui étaient présents à ces meetings, leur enthousiasme, comme il a pu, n'est-ce pas, exciter ces gens. Tous les 10 minutes, ils chantent « Heil Hitler, Sieg Heil », etc. C'est ça qui était plus intéressant, comme s'ils étaient hypnotisés. Hypnotisés, mais d'une façon incroyable. C'est ça qui m'a intéressé. Et c'est de ça que je me souviens mieux.
Justus Rosenberg n'a jamais oublié l'immense adhésion des Allemands à leur Führer. Et il s'en souviendra lorsqu'il verra entrer les soldats allemands dans Paris. Et c'est exactement pour cette raison qu'il projette de rejoindre la zone sud.
La vie est souvent, et je crois pour moi de toute façon, déterminée par ce que j'appelle une confluence de circonstances.
Après Danzig, Berlin et Paris occupé, Justus Rosenberg poursuit son périple sur les conseils d'une jeune Américaine bienveillante et fortunée.
Cette jeune femme s'appelle Miriam Davenport. C'était une Américaine, vraiment une vraie Américaine, depuis plusieurs générations. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a trouvé très sympathique. Et elle m'a dit, écoutez, moi je vais à Marseille, Marseille a des consulats, Marseille est près de la mer, si jamais vous voulez partir plus loin, vous ferez mieux d'y aller là-bas. Moi je sais, je vais rester dans un hôtel à Marseille, si vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous aider, venez me voir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Marseille pour moi c'était un peu comme Chicago à New York à ce moment-là. Ah, des gangsters, de la mafia, des mafiosos, etc. Ce qui est d'ailleurs vrai un peu. Quoi. La propagande existait aussi, n'est-ce pas? Les gens venaient d'un peu partout en France, n'est-ce pas? Ah, les Boches viennent. Ah, évidemment, ça a effrayé tout le monde. Tout le monde a commencé à partir, n'est-ce pas? Miriam Davenport était à Marseille aussi pour ses propres raisons, parce qu'elle aussi cherchait un visa pour sortir de la France. Son fiancé était yougoslave et elle voulait rejoindre son fiancé en Slovénie. Elle habitait dans un petit hôtel, enfin c'était pas si petit, il s'appelait ironiquement l'hôtel Bel Air. Et tous les soirs on se voyait dans un petit bistrot autour du coin de l'hôtel. Elle m'a raconté un peu ce qu'elle a fait pendant la journée. Moi, je lui ai raconté aussi la même chose.
Avec sa bouille blonde, ses yeux bleus et son bon français, Justus arrive à gagner 3 francs 6 sous en s'improvisant porteur à la gare Saint-Charles où les voyageurs s'essoufflent à monter les grands escaliers. Il fait ainsi face à ses frais, mais tout cela ne nous dit pas comment Justus est entré dans le réseau Varianfrei.
C'est à nouveau une confluence de circonstances. Vous avez personne ne connaissait Varianfrei. D'ailleurs, il était venu avec une liste de 200 personnes qui lui étaient données à New York par des amis et il ne savait pas qu'il allait rester pendant un an. Alors, Miriam Davenport raconte, j'ai rencontré un poète allemand qui s'appelle Walter Mehring, que j'ai connu à Paris et qui m'a demandé une faveur. Il m'a demandé si je ne pouvais pas aller de sa part voir un Américain qui, paraît-il, est venu à Marseille aider aux gens qui ont besoin d'obtenir le visa, visa américain ou d'autres. Alors elle me raconte, je suis allé donc voir ce monsieur Frey et elle a commencé à travailler pour Frey.
Et c'est ainsi que Miriam Davenport, l'amie américaine de Justus, commence à travailler pour Varianfrei. Le jeune intellectuel est alors âgé de 32 ans et il a cofondé une revue artistique d'avant-garde. Très conscient de l'immense danger recouvré par les cibles du régime nazi, Varianfrei est à la tête d'une entreprise privée de sauvetage des artistes juifs et non-juifs, sous couvert du Centre américain de secours, organisation humanitaire installée à Marseille.
À ce moment-là, beaucoup de ces gens avaient une grande peur parce qu'ils n'étaient pas français, ils étaient étrangers et l'armistice qui était signé avait un article, l'article 19, qui disait que la France doit livrer aux Allemands certains gens qu'elle va demander. Alors tout le monde avait peur que ça va être lui. Et au fond, Fry était venu d'aider seulement des intellectuels, des écrivains, des peintres. Il faisait une fiche sur chacun. Et évidemment, tout ça se passait en secret. Et vous savez, Varian Fry ne pouvait pas employer les téléphones, parce que les téléphones, on ne savait jamais, n'est-ce pas, qui va écouter. Alors, il me disait, vous savez, nous avons vraiment besoin d'un garçon de course. Alors, Marion Davenport, qui faisait partie maintenant de ce petit conseil qui se réunissait chez Fry, disait, ah, j'ai votre homme. Et elle assurait que ce soit moi. Et en effet, c'est ainsi que je devenais garçon de course, garçon de bureau, mais au fond, plus que ça. Une de mes premières missions difficiles était d'aider 5 réfugiés qui avaient visa américain, visa espagnol, visa portugais, mais pas de visa du régime de Vichy, un visa de sortie. Les premiers 5 qui passaient de cette façon, c'était Heinrich Mann, qui était le frère de Thomas Mann, son épouse, je crois qu'elle était 26 ans plus jeune que lui. Il y avait aussi un autre couple très intéressant, un écrivain très très connu, autrichien, Franz Werfel, marié à une femme qui est très célèbre dans son propre droit, Alma Mahler Werfel. C'était l'épouse de Mahler, le grand compositeur Mahler. Il y avait ces 4-là. Aussi un neveu de Heinrich Mann, il y avait 5. Alors, Fry m'a demandé de venir à la gare Saint-Charles pour aider à ce qu'ils mettent leurs valises sur le train. Surtout que Alma Mahler-Werf est arrivée avec 12 valises. Évidemment, ils ont mis ça sur le train. Une fois arrivée à la frontière, alors Fry a dit, écoutez, vous allez leur aider à monter par cette route à travers les Pyrénées. C'était une route assez difficile. Heinrich Mann avait 70 ans. Werfel était dans une soixantaine, je crois. Mais il souffrait du cœur. Enfin,
Vieux, quoi.
Non, c'était des vieux, en effet. Non, c'était pas seulement ça, c'était des intellectuels. Ils n'avaient pas fait du sport, ils n'avaient pas fait. Et c'était pas facile de demander. Et à propos, tous les quarts d'heure, il y a Heinrich Mann qui s'asseyait, qui soufflait. Et une fois arrivé au sommet, c'était là que la frontière était. Moi, j'avais pas de visa, j'avais rien. J'étais simplement un éclaireur, pour ainsi dire. Je devais descendre et eux, une fois qu'ils sont arrivés, ils étaient en Espagne, ils avaient le visa espagnol. Ils se présentaient donc au premier poste espagnol. Ils étaient sauvés. Et voilà, c'était mon premier job avec Fry.
Comme il aime à le souligner, nombreux sont les concours de circonstances dans l'itinéraire de Justus Rosenberg. Mais tout aussi nombreuses sont les femmes dont le rôle moteur ne vous a pas échappé dans son histoire. Car c'est par une femme, encore une fois, que le lien est fait avec les milieux marseillais pour l'établissement des faux papiers.
Mary Jane Gold, qui était millionnaire, elle s'était amourachée d'un légionnaire qui était canadien ou français, je ne sais même plus exactement, et qui avait contact avec justement les milieux à Marseille. Et c'est comme ça que ce contact s'est établi. Et Peggy Guggenheim aussi, qui était à Marseille, parce que Peggy Guggenheim aussi savait qu'il y avait pas mal d'artistes, surtout des surréalistes d'ailleurs. Elle s'est amourachée de Max Ernst, le fameux sur liste. Elle a obtenu justement un visa pour lui, elle l'a aidé à aller au Portugal, et de là, ils sont allés par avion, à ce moment-là, c'était très rare, par avion, en 1940-41, et elle s'est mariée avec lui une fois arrivée à New York. Je crois qu'ils se sont divorcés un an plus tard, mais ça n'a pas d'importance. Elle collectionnait deux choses. Elle collectionnait des peintures modernes et des hommes.
Fini la vieille conception que le peintre est un bébé nouveau-né, disposant d'une paire d'yeux naïfs et d'une boîte de couleurs où l'esprit, l'humour, l'intelligence, la poésie sont exclus.
Le peintre allemand surréaliste Max Ernst est sur la liste de Varian Frey, car son art est considéré comme dégénéré par les nazis. Mais grâce au réseau, il fut à New York comme Chagall, son ami.
Il était temps de s'apercevoir qu'en matière de naïveté, la moindre vache normande est supérieure au plus grand génie.
Moi, je me souviens surtout des surréalistes. Je les ai rencontrés. Nous avons échangé quelques phrases. Il n'y a que André Breton que j'ai bien connu, parce que j'habitais dans la même maison où il habitait à ce moment-là. André Breton, sa femme Jacqueline, qui était d'ailleurs donc... Je commençais à avoir le béguin pour elle. Elle était très belle. Surtout, je me souviens, elle portait des morceaux de verre en couleur dans ses cheveux. Et elle, je ne crois pas qu'elle était très belle, mais elle était très attractive. C'est ça ? Séduisante, absolument.
À l'âge de 19 ans, Justus Rosenberg se retrouve aux premières loges des extravagances parfois troublantes des surréalistes protégés par Varian Frey. Car si les visas de transit vers l'Espagne et le Portugal ne posent pas de problème, les artistes doivent parfois attendre plusieurs mois le visa de l'État français, collaborateur et antisémite. D'où la nécessité pour le réseau de se rapprocher de gangsters comme Charles Vinci Leoni, auquel Frey achète des faux papiers. Alors en attendant, Justus Rosenberg partage le quotidien des invités de ses riches amies américaines, chargées par Frey de trouver une maison aux surréalistes.
Miriam Davenport et Mary Jane Gold, ils ont trouvé en effet une maison qu'ils ont nommée Herbel. C'était une grande maison à deux étages, il y avait 8 chambres, il y avait des salles à manger et tout ça. Et ils avaient invité à 2 Français qui travaillaient aussi pour Varian Frey. C'était Jean Gmeling, qui est plus tard devenu un héros de la Résistance. Et c'est lui qui m'a fait entrer dans la Résistance aussi plus tard. Et l'autre, c'était Benedetti, qui aussi travaillait pour Frey. Mais eux aussi ont invité des amis à eux, 2. C'était André Breton et Victor Serge, ancien trotskiste aussi. C'est donc ceux-là que j'ai assez bien connus. Le soir, Breton était le maître de cérémonie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il parlait du surréalisme, il se moquait un peu du système vichysois. Pendant la journée, lui, il s'occupait de ses propres affaires. Il était en train d'écrire son poème « Fata Morgana ». C'est ça, n'est-ce pas ? Il y avait une cuisinière qui faisait de la popote, etc., n'est-ce pas ? Il fallait aussi trouver des légumes. Vous savez, ces années, c'était des moments où il y avait des cartes d'alimentation. Et donc, ce n'était pas facile de mener la vie quotidienne.
Vous écoutez l'incroyable histoire de Justus Rosenberg, dernier témoin du réseau Frey. Il se raconte au micro d'Anne-Marie Capomaccio, notre correspondante aux États-Unis, et c'est à suivre sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
C'est la suite de La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes à l'écoute de l'incroyable histoire de Justus Rosenberg, le dernier témoin et acteur du réseau américain Varian Fry, grâce auquel 2000 personnes, principalement des artistes, juifs et non-juifs, ont été sauvées de la déportation des camps nazis.
Il y avait des gens qui n'avaient aucune difficulté d'obtenir des visas, parce qu'ils étaient très célèbres et les États-Unis admettaient quelqu'un, n'est-ce pas, pour montrer que l'Amérique offrait ses portes aux grands artistes. Chagall n'avait pas de difficulté. Ils habitaient dans les plus grands hôtels à Marseille. Mann, par exemple, Heinrich Mann, et un monsieur qui s'appelle Meyerhoff, qui avait obtenu le prix Nobel en chimie en 1927, les États-Unis l'admettaient immédiatement, et plus tard son fils aussi, que j'ai connu d'ailleurs.
Meyerhoff, Heinrich Mann, Chagall sont sur la liste de Varian Fry établie en 1940, tout comme l'illustre fondateur du mouvement surréaliste André Breton.
Durant l'hiver de 1940 à Marseille, Victor Serge et moi sommes les hôtes du comité de secours américain aux intellectuels, avec les dirigeants duquel nous résidons dans une spacieuse villa de la périphérie, Air Belle. Nombreux, les surréalistes s'y retrouvent chaque jour et nous trompons du mieux que nous pouvons les angoisses de l'heure. Il vient là Bellemare, Bronner, Char, Dominguez, Max Ernst, Herold, Itkin, Lam, Masson, Perret, si bien qu'entre nous, une certaine activité de jeu reprend par moments le dessus. C'est de cette époque que date en particulier l'élaboration à plusieurs d'un jeu de cartes dessiné d'après des symboles nouveaux correspondant à l'amour, au rêve, à la révolution, à la connaissance, et dont je ne parle que parce qu'il a l'intérêt de montrer ce par rapport à quoi, d'un commun accord, nous nous situons à ce moment.
Du soleil, du bruit et des chansons, ça c'est Marseille, ça c'est Marseille. Le dimanche à l'héros cabanon, ça c'est Marseille, ça c'est Marseille. Les chichourlettes aux yeux câlins, le bon pastis dès le matin, la bouillabaisse et les oursins.
C'est depuis Marseille, dans la zone sud non occupée par les Allemands, que Varian Fry organise les départs par mer et parfois par avion. Il est financé par des citoyens américains comme Mary Jane Gold, qui crée la Gold List et donne des millions au réseau clandestin. C'est elle qui finance la fameuse villa Air Belle, où s'est réfugié André Breton avant son départ. Mais la nouvelle se propage vite dans Marseille, et les adeptes du surréalisme se précipitent pour rencontrer leur pape à la villa. C'est pourquoi Breton demande à Justus Rosenberg de faire passer le message. Rendez-vous tous les dimanches au petit bistrot Le Brûleur de Loup.
Et ils m'ont permis de souvent rester dans la salle à manger. Ils jouaient un jeu surréaliste, Le Cadavre Exquis. Tous les dimanches, je me souviens très bien, dans cette salle à manger, il y avait cette grande table, beaucoup de chaises parce qu'elle était énorme. Et aussi, il y avait sur une étagère deux petits tonneaux de vin avec les compliments du patron. Alors, il jouait au cadavre exquis qui consiste d'abord par des dessins collectifs, n'est-ce pas, sans que les gens voient ce qu'il y a d'autre, ou bien des poèmes collectifs.
J'ai mis le cheval dans l'âme et c'est très intéressant.
Finalement, plus tard, j'ai bien connu, parce qu'il y a un parmi eux, Monsieur Browner, un surréaliste qui s'appelle Browner, qui n'a jamais pu quitter la France. Mais je sais qu'il est resté vivant quand même. Mais c'est lui qui m'a un peu donné une idée de ce que c'est le surréalisme.
Entre le mois d'août 1940 et le mois d'octobre 1941, 20 000 réfugiés auraient pris contact avec le comité Fry. Mais les efforts des Américains sont concentrés sur les artistes et les intellectuels. Certains refuseront de partir pour les États-Unis comme Pablo Picasso, mais pour 2 000 d'entre eux, le sauvetage a bien eu lieu. André Masson.
Je reçois une lettre d'André Breton et dans cette lettre, il me le dit, il m'adjure de partir avec ses amis et lui aux États-Unis. Je lui réponds, franchement, j'y ai déjà pensé, mais j'attends vraiment que ça aille plus mal. Ma femme ne voulait pas s'en aller, ne voulait pas quitter sa famille. Sur ces entrefaites, il y a eu à la radio cette proclamation de loi raciale et humaniste venant de Vichy. J'ai vomi, littéralement, j'ai vomi en entendant ça à la radio. J'ai su après que c'était arrivé à d'autres. Alors là, j'ai dit à ma femme, non, même par la force, tu partiras, nous partirons avec nos deux enfants. Et nous essayerons de faire partir le plus de monde possible. Et tout le monde était bien heureux quand, ouf, on a trouvé un bateau, un vieux rafio, charmant d'ailleurs, qui nous a conduits tous à New York.
Il était temps, car après avoir fui l'Allemagne nazie, la Pologne et les territoires occupés, les artistes et les juifs réfugiés en France sont listés et livrés aux Allemands par le maréchal Pétain et l'État français lors de l'été 42. C'est la mise en œuvre de la solution finale. Et déjà, lors du printemps 41, les arrestations s'étaient multipliées à Marseille. Varian Fry avait réussi à faire libérer Marc Chagall, mais ensuite, il a lui-même été convoqué par la police.
Vous avez causé beaucoup de désagréments à mon ami le consul des États-Unis.
Si c'était le cas, il me l'aurait dit.
Mon ami le consul me dit que votre gouvernement et le comité américain que vous dirigez vous demandent de rentrer immédiatement aux États-Unis.
C'est faux. Pourquoi m'a-t-on refusé le renouvellement de mon passeport ?
J'ai reçu l'autorisation de le prolonger pour un retour immédiat aux États-Unis, c'est tout.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je vais être plus précis. Votre gouvernement vous lâche.
Effectivement, les plus grands ennemis de Fry étaient finalement américains. Même si la femme du président Roosevelt avait personnellement soutenu le réseau Fry, comme le rappelle notre grand témoin Justus Rosenberg.
Au fond, même Madame Roosevelt lui a retenu son soutien. Parce qu'au fond, les États-Unis n'étaient pas encore en guerre. Les États-Unis avaient des relations diplomatiques avec Vichy France et avec l'Allemagne encore. Et ils avaient même envoyé un ambassadeur à Vichy.
Le retour forcé de Varian Fry aux États-Unis en octobre 1941 précipite la fin des sauvetages mis en œuvre par les membres du réseau.
Miriam Davenport est partie au bout de 6 semaines. Très tôt, parce qu'elle avait son propre intérêt aussi. Elle n'est pas restée. Elle est allée en Yougoslavie pour voir son fiancé, qu'elle a marié d'ailleurs plus tard et divorcé au bout de 2-3 ans. Enfin, ça arrive. Et pour Mary Jane Gould, qui avait déjà un appartement à Paris avant la guerre, qui avait son propre avion, un petit avion qu'elle a donné au gouvernement français lorsque la guerre a éclaté, pour elle, c'était une grande aventure aussi, n'est-ce pas ? Évidemment, on disait, voilà, on fait du bien, mais en même temps, je crois, on faisait du bien pour soi-même aussi, c'est-à-dire, n'est-ce pas ? C'était excitant de faire ça. Pour moi, eh bien, au bout de quelques semaines, j'ai commencé à me demander, pourquoi est-ce que des visas pour ces gens-là ? Est-ce que tout le monde ne devait pas être sauvé ? N'est-ce pas ? Et j'ai commencé à avoir des doutes un peu.
Alors qu'il n'a jamais été autant en danger, Justus Rosenberg reste plus soucieux de l'avenir des autres réfugiés que de son propre avenir. Il est un jeune juif étranger de 20 ans, sous le coup des lois de Vichy, et se retrouve absolument seul à Marseille à la veille des grandes rafles dictées par la solution finale.
La guerre a continué. Les choses commencent à s'empirer. Vichy France commence à avoir des lois qui sont comme les lois en Allemagne, et vous savez, les premiers gens qui vont envoyer en Allemagne étaient des juifs étrangers qui vivaient en France.
Mais Justus Rosenberg a l'insouciance de la jeunesse et confiance en lui. Il sait comment passer la frontière espagnole pour rejoindre le Portugal. Mais Varian Fry parti, Justus n'a plus ni l'argent ni les visas pour garantir son passage. Cette fois, il est arrêté.
Alors, une fois chez les gendarmes, ils m'ont mis en prison à Foix. Je suis resté à Foix pendant 2 semaines. Et là aussi, concours de circonstances, je passe devant un juge et, à ma grande surprise, il me condamne 150 francs d'amende avec sursis. C'est bizarre, n'est-ce pas? Rappelez-vous que nous sommes dans le régime de Vichy. Après le jugement, il m'appelle dans son cabinet. Il me dit, jeune homme, la prochaine fois, tâchez de vous y prendre mieux. Il y en a qui commençaient à organiser la résistance. Alors, Jean Gmeling, pendant qu'il travaillait pour Frey, était déjà membre d'un groupe de résistants. Avant mon départ, il me dit, je te souhaite bonne chance, mais si ça ne marche pas, écoute, reviens à Marseille, parce que je crois qu'il faisait partie, de ce qu'on appelle le réseau Gallia. Donc, moi, en retournant, je vais le voir, et il me dit, écoute, il voudrait que j'aille à Grenoble. Et moi, justement, j'étais sûr que j'étais en règle. Tant qu'on avait sa carte d'identité qui était tamponnée par la préfecture, on était en règle.
Rappelez-vous, Justus Rosenberg avait rencontré Jean Gmeling dans la fameuse villa Herbel de Marseille où Varian Frey accueillait André Breton et sa femme. Résistant de la première heure, Jean Gmeling deviendra le chef du service de renseignement de la zone sud. Il transmettait ses informations au BCRA, le bureau central de renseignement et d'action, service gaulliste basé à Londres. Envoyé en mission lors de l'été 42, Justus se fait à nouveau arrêter.
En août 1941, les grandes rafles commencent en France, c'est-à-dire les Juifs étrangers. On ne savait pas ce qui va se passer. Les idées de concentration, tout ça, les gens ne savaient pas encore vraiment. Il y a des gendarmes qui ramassent des gens et qui les amènent dans un camp de détention près de Lyon. Et je suis pris de Grenoble à Lyon, dans ce sens-là, est mis dans ce camp. En arrivant, on disait, vous êtes à baraque telle et telle. Le camp était évidemment entouré de barbelés, n'est-ce pas? Eh bien, moi, en arrivant, j'ai dit, ouais, je me demande qu'est-ce qui va m'arriver maintenant.
Vous écoutez l'incroyable histoire de Justus Rosenberg dans La Marche du Monde, réfugié juif polonais engagé dans la résistance française. Il retrace, au micro de notre correspondante aux États-Unis, Anne-Marie Capomaccio, son évasion du camp français de Vénissieux, près de Lyon.
Alors, en me baladant dans ce camp, à nouveau concours de circonstances, je rencontre une sœur d'un de mes amis du lycée, qui était aussi juif, qui était étudiante à l'école de médecine à Lyon et qui était aussi ramassée pendant le rabat. Alors, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais pas me donner un tuyau, une maladie qui n'est pas trop sérieuse, mais quand même assez sérieuse? Alors, elle me dit, mais à l'appendicite, c'est pas très sérieux. Ah, eh bien, péritonite, qui est une inflammation de la pandémie. Ah, je dis, c'est pas une idée. Écoute, voilà, moi je vais me mettre derrière une de ces baraques. Toi, tu vas à l'infirmerie et tu dis, il y a un jeune homme qui est en train de mourir. Et nous allons voir ce qui va se passer. Seulement, arrive maintenant l'infirmier, français d'ailleurs, et le moment de vérité est arrivé parce qu'ils mettent le thermomètre quelque part. Et sortent, parce que vous savez, il y a d'autres choses à faire. Et je dis, oh mon Dieu, mais j'ai pas de fièvre. Comment faire maintenant? Alors je prends le thermomètre et
Vous chauffez?
Oui, avec mes doigts. Au bout d'une heure, il y a une ambulance qui arrive dans ce camp. Ils mettent dans cette ambulance. Ils vont à l'hôpital Édouard Herriot, à Lyon. Et à 10 heures du soir, je me trouve sur une table d'opération et je suis opéré. Alors, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'avais vraiment des douleurs terribles. J'avais vraiment mal. Quelqu'un est venu, m'a donné une piqûre et je me suis trouvé attaché au lit pendant la nuit. J'essayais de m'élever et
de fuir,
c'est ça. Ah, j'ai dit, au moins, le premier pas fait, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit, mais comment faire? Comment me mettre en contact avec Jean Gmelink? Parce que Jean Gmelink, nous avons une boîte postale où on mettait des messages. Alors, j'ai dit, écoutez, j'ai pas de choix. Je demande donc à cette jeune infirmière française, je dis, écoutez, est-ce que vous voulez, pouvez me rendre un service? Elle me dit, oh ben je veux bien. Elle me dit, mais quoi? Alors j'ai dit, écoutez, je voudrais vous écrire un petit mot, et si vous êtes gentil, soyez gentil de le mettre dans cette boîte postale. Et c'est ce qu'elle a fait. C'était dangereux au fond ce que j'ai fait là. Parce que...
Dangereux pour vous, dangereux pour elle. Qu'est-ce que vous disiez dans ce petit mot?
Dans ces petits mots, je disais que moi, je me trouve maintenant à l'hôpital Grange-Blanche, n'est-ce pas? Et j'ai besoin d'aide, si c'est possible. C'est tout. Et au bout de 5 jours, arrive un prêtre. Parce que les prêtres et les services sociaux avaient le droit de voir les prisonniers. Le prêtre arrive, il me dit, je viens... de l'Amitié Chrétienne, qui était une organisation qui essayait de sauver les enfants des Juifs, m'a dit, écoutez, je vais revenir, je crois, dans le dimanche prochain, parce que c'est le jour où il y a beaucoup de visiteurs à l'hôpital. Je vais mettre une chemise et des shorts et une paire de sandales dans le cabinet. Vous sortez de votre lit, descendez les marches, en bas les marches, à la sortie il y a une bicyclette, et voilà une adresse, rappelez-vous cette adresse, à Lyon, justement pour des gens qui ont pu s'échapper et qui, en attendant, n'est-ce pas, il fallait qu'ils restent quelque part.
Une planque.
Une planque, c'est ça.
Alors que le port de l'étoile jaune est devenu obligatoire en zone sud et que la déportation des Juifs se poursuit, les actions de résistance et de solidarité des Français se multiplient.
Oh, mais c'est pas fini encore. La résistance, Jean Gmelink, a trouvé une planque dans une famille protestante à Montmeyron, dans la Drôme, où je vais habiter. Ils m'ont donné des faux papiers sous le nom de Jean-Paul Guiton, né à Saint-Malo. Ma mère était alsacienne, à cause de l'accent. Vous savez, les Alsaciens. Mon père était officier de l'armée française, tombé pendant la guerre de 1940. Même les Allemands honoraient beaucoup, n'est-ce pas, quelqu'un qui meurt pour son pays, n'est-ce pas?
Et Justus Rosenberg transformé en Jean-Paul Guiton, ça marchait?
Oh, ça, écoute, si ça marchait tellement bien, je jouais dans l'équipe de football du village. Et je chantais à l'église. L'organiste de l'église protestante, elle m'amenait avec elle. Je chantais dans les chanteurs, « À toi, mon Dieu, je me donne, je me souviens encore jusqu'à aujourd'hui. » Vous comprenez? Les gens savaient, mais ils n'en parlaient pas.
Entre 1942 et 1944, Justus Rosenberg, alias Jean Guiton, poursuit ses activités de renseignement dans la résistance. Puis, il rejoint un bataillon de l'armée américaine, car les Alliés ont débarqué.
C'est de nouveau incroyable si je raconte cette histoire, parce que, vous savez, les Américains qui étaient sur le front, comme ça, recevaient des paquets, parce qu'on ne pouvait pas faire de la cuisine dans le front. Et on s'arrêtait chez les Français. Moi, je rentrais, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous avez vu les Allemands quand ils ont passé dernièrement? Alors, en sortant, les trophions américains amenaient les paquets et le donnaient à ces paysans en échange de lait, parce que les Américains adoraient le lait à ce moment-là. Ils buvaient du lait comme de l'alcool. Et le Français, ils étaient très contents parce qu'ils étaient là pendant 3-4 ans, ils n'avaient pas vu du chocolat, du papier de toilette, mon Dieu, ça ne se voyait pas, n'est-ce pas? Et moi, j'étais normalement assis près du chauffeur, dans chaque type. Avec, j'avais une mitraillette, là. Et ensuite, derrière, il y avait deux autres qui étaient assis et qui faisaient une espèce de poste radio.
La transmission.
C'est ça, la transmission. Alors, normalement, moi, j'étais là. Seulement, en sortant, il y a le paysan qui me rappelle, me dit, écoutez, monsieur, ce que je peux vous voir, vous savez, je n'ai jamais entendu un Américain qui parle français si bien. Alors, j'ai dit, tiens, et ben là, voilà, ça, c'est pour vous. Et il me donne une petite bouteille de, c'était du mar, ou je ne sais pas, quelque chose qu'il avait fait. Et mes copains, les trois autres, s'impatientaient. Alors, ils commençaient comme s'ils allaient partir. Et l'un des deux qui était assis derrière s'est assis à ma place. Moi, j'arrive en effet, et je saute derrière. Au lieu d'être assis à ma place, 5 minutes plus tard, on saute sur une mine. Et vous savez, les mines, celui qui était assis là à ma place est tué. Le chauffeur perd sa jambe. Moi, qui étais assis derrière par hasard, je suis blessé, mais pas grièvement. Je suis envoyé à l'hôpital. Au bout d'une semaine, je suis renvoyé à cette occasion.
Les yeux dans les yeux, Justus Rosenberg répond aux dernières questions d'Anne-Marie Capomaccio. Car à 96 ans, le professeur Rosenberg continue d'enseigner.
Ce que je fais, j'enseigne de la littérature comparée. C'est-à-dire littérature française, russe, allemande. Et je travaille parce que j'aime mon travail. Et j'ai de la chance aussi, ce n'est pas un concours de circonstances. Parce que là, c'est mon propre effort.
J'ai lu que vos étudiants... ont une opinion extraordinaire de vous, mais ils ne savent pas tout ça.
Non, ils ne savent pas. Pour la première fois, dernièrement, il y a quelques semaines, quand ils ont entendu que j'ai obtenu la Légion d'honneur, ils se sont demandé, mais c'est lui, c'est ça ?
Est-ce que c'était important ? Est-ce que c'est important de recevoir la Légion d'honneur ?
Eh bien, dans un sens, oui. Le fait que ça a été finalement reconnu, parce que moi, j'ai jamais demandé ça, n'est-ce pas, c'était finalement reconnu, eh bien, ça m'a fait beaucoup de plaisir, surtout parce que quand je regarde, je viens de recevoir une copie signée par le président de la République. D'ailleurs, je peux vous le montrer parce que je viens de le recevoir. J'aime beaucoup la France, encore aujourd'hui. Vous savez, ce qui est bizarre, je crois que j'aime aussi la culture allemande, parce qu'elle m'a aussi, elle m'a donné beaucoup quand j'étais jeune, et ensuite la culture française, n'est-ce pas ?
Quels sont vos projets, Monsieur Rosenberg ? Vous avez 96 ans, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que vous n'avez pas écrit de livre sur votre vie, par exemple ? Vous avez envie de quoi, là ?
Ah, mais je suis justement en train de l'écrire. J'ai déjà un contrat. Il faut que ce soit fini au mois d'août. Alors, je suis en train de travailler comme un fou pour pouvoir le finir, n'est-ce pas ? Eh bien, je raconte au fond, bien en détail, ce que je vous ai raconté maintenant. Ben, j'espère que j'ai vécu assez longtemps pour pouvoir finir ça.
Je vous remercie. Je vous remercie.
L'incroyable histoire de Justus Rosenberg. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, proposé par Anne-Marie Capomaccio, signé Valérie Nivelon et mise en onde par Elliot Bourrel, avec la complicité de notre stagiaire, Marion Lefebvre. Il me reste podcast à vous donner rendez-vous sur la page RFI.fr de la Marche du Monde pour toutes les infos et les photos sur Justus Rosenberg et le réseau Fry. Retrouvez-nous également sur Facebook. Podcastez, cette émission, c'est la vôtre.